du monde, Amélie Perrier.
Oui.
C'est celui des trains bondés qu'on entend ici.
Exactement.
C'est quasiment une image d'Épinal au Bangladesh.
Ce que l'on sait moins, c'est que tous ces Bangladais envahissent les trains, montent sur les toits, se tiennent en équilibre sur les marchepieds pour atteindre Tongi, pour participer en fait au deuxième plus grand rassemblement de musulmans au monde, car on estime qu'il rassemble 5 millions de musulmans. Alors ici, c'est l'une des prières suivies par des centaines de milliers de fidèles ce week-end, serrés les uns contre les autres sur des hectares et des hectares. Ils viennent de partout, au Bangladesh, mais aussi du monde entier. D'où le nom du rassemblement, Bishwa Ijtema, qui en bengali veut dire la congrégation mondiale. C'est donc le deuxième plus grand rassemblement. Vous savez qui est le premier grand rassemblement de musulmans au monde?
Je veux dire la Mecque, mais vous allez me dire pas du tout.
Effectivement, c'est pas la Mecque en Arabie Saoudite qui est un des 5 piliers de l'islam, ce pèlerinage. C'est pour ça qu'il est si important, il rassemble environ 2 millions de croyants. Non, en fait, le premier, c'est en Irak, c'est à Karbala, le pèlerinage d'Arbaïn, 15 à 20 millions de fidèles. Mais retournons au Bishwa Ijtema, au Bangladesh, en périphérie de Dhaka, la capitale, où c'est une ville de tentes qui se monte le temps d'un week-end pour accueillir tous ces musulmans. Les fidèles se massent jusque sur les toits des bâtiments pour suivre la prière. Des cérémonies de mariage collectif ont lieu. Une centaine de couples se sont dit oui samedi, nous rapporte le Dhaka Tribune. Et ce week-end n'a été qu'une première phase. Le pèlerinage est désormais organisé sur 2 week-ends espacés de 4 jours pour pouvoir accueillir tout le monde. Les départs hier soir du site ont donné lieu à des scènes dantesques, des bouchons monstres, des taxis et des chauffeurs de bus qui ont fait exploser les prix des transports.
Allez, direction le Montana. Amélie, pour l'un des parcs naturels emblématiques des États-Unis, celui de Glacier.
Oui, nous sommes donc tout au nord-est des États-Unis, à la frontière avec le Canada, un parc surnommé la couronne du continent, une couronne de dizaines de glaciers, des centaines de lacs et des milliers d'espèces animales et végétales, un des écosystèmes les plus préservés du pays. Un environnement très fragile, on s'en rend compte depuis des années. Écoutez cet archive, c'est le journal de 20h de France 2, septembre 2003, reportage de Diego Garcia.
C'est l'un des parcs nationaux les plus populaires d'Amérique du Nord. Nous sommes au Montana, près des montagnes rocheuses. Ici passent plus d'1,5 million de visiteurs tous les ans. Mais le changement climatique pourrait bien avoir raison de toutes ces merveilles de la nature.
Nous estimons qu'il y a à peu près 26 glaciers aujourd'hui, alors qu'en 1968, ils étaient 37.
Voilà, il y a une dizaine d'années, des panneaux étaient installés dans le parc pour annoncer la disparition totale des glaciers d'ici 2020. Et 2020, c'est aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les glaciers sont encore là, encore un petit peu. Ils ont quand même perdu 85% de leur taille en un demi-siècle, nous dit une étude de 2017. L'agence nationale qui s'en occupe affirme, grâce à de nouvelles projections, que la fonte complète n'aura pas lieu aussi rapidement. La mauvaise nouvelle, c'est que l'environnement n'est plus du tout la priorité de la Maison Blanche sous Donald Trump. Les budgets d'entretien des parcs ont été revus à la baisse. Et le comble de l'histoire ici, c'est que le parc n'a pas les moyens de changer tous les panneaux annonçant la fin des glaciers en 2020. Toutefois, on a déjà rédigé le message des futurs panneaux quand les crédits seront débloqués pour les payer. Je vous les lis. La date de la disparition des glaciers, la disparition complète, dépend de comment et quand nous agirons. Les glaciers existent depuis des millénaires et vont disparaître dans quelques décennies, ça c'est sûr. Et tout le monde le regrette aujourd'hui. Au-delà du Montana, en Islande, par exemple, le premier glacier vient de disparaître. Les scientifiques ont organisé ses funérailles symboliques et ont annoncé un sort similaire à tous les autres glaciers islandais dans les 200 prochaines années.
Allez, on vous présente une femme pour terminer, Amélie, dont le parcours résonne avec un écho particulier dans le contexte d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'elle est américano-iranienne. Elle s'appelle Jasmine Mokbeli. Elle est devenue astronaute à la NASA vendredi dernier. Jasmine est la première astronaute américaine d'origine iranienne. Elle a 36 ans. Ses parents iraniens ont fui la révolution islamique en 1979. Dans sa vidéo de présentation de la NASA, elle raconte. Depuis que j'ai 6 ans, je veux devenir astronaute. En 6e, j'ai fait un exposé sur Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace. Et on devait s'habiller comme la personnalité de notre devoir. Alors, ma mère m'a aidée à confectionner une petite combinaison spatiale. Voilà, elle a suivi un cursus exemplaire, un diplômé du MIT. Elle s'engage ensuite dans l'armée, dans les Marines. On la surnomme Jaws, puis depuis qu'elle s'est coincée la mâchoire, Jaws en anglais, pendant une mission en hélicoptère en Afghanistan. Ouais, c'est une dure à cuire. Jasmine vient de terminer 2 ans et demi de formation à la NASA et fait partie d'une promotion où enfin l'agence spatiale veille à respecter la parité homme-femme et des origines très diverses. À propos de ses origines iraniennes à la NASA, je n'ai pas du tout senti que j'étais traitée différemment, a-t-elle répondu simplement la semaine dernière.
Voilà, mais on l'appelle Jaws.
Jaws.
Qui veut dire donc, technique, les dents de la mer.
Les dents de la mer.
Donc c'est tellement aimable.
Son site, c'est Astro Jaws.
Super, ça fait super peur. Amélie Perrier, le bruit du monde, merci beaucoup.